Permettez-moi d'interrompre cet épisode 60 secondes. J'ai un message important pour vous. Atteindre 10 000 euros de revenus mensuels stables et prédictibles, même si vous démarrez de zéro, cela vous semble impossible ? Bonne nouvelle ! Du 30 avril au 5 mai, nous organisons le plus grand événement en ligne francophone de l'année pour les entrepreneurs. Le challenge entrepreneurs.com. 100% gratuit, 5 jours intensifs pour propulser votre business. Chaque jour, vous aurez accès à des sessions live exclusives avec des experts de renom. Ce n'est pas juste un événement en ligne, c'est une chance de faire un vrai changement grâce à des conseils et des méthodes prouvées. C'est une opportunité d'échanger en live avec mon équipe et moi pour faire avancer votre projet. C'est la garantie d'évoluer et de progresser dans un environnement sain et profiter d'une communauté unique. Je vous invite maintenant à réserver votre place. Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, consultez notre site podcastledeclic.fr ou cliquez sur le lien dans notre bio Instagram. Merci pour votre confiance et maintenant, place à notre épisode du jour.
Si au fond de vous, et moi c'était mon cas, vous vous sentez entrepreneur, il faut le faire. Si vous sentez que vous pouvez changer quelque chose dans votre profession, si vous avez quelque chose à apporter, faites-le. Je me suis aperçu à quel point le mindset pouvait être décisif dans la réussite entrepreneuriale. On aura du mal à entreprendre et à entreprendre positivement si on n'a pas fait un vrai travail sur son mindset. Et ça, tous les chefs d'entreprise à succès vous le diront.
Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence.
Ok, bon, super. Aujourd'hui, on a un invité assez exceptionnel, assez intéressant. Ça fait super plaisir de l'avoir ici. Et on va rendre fun et intéressant, tout simplement, captivant. Un sujet qui peut paraître parfois un petit peu rébarbatif ou ennuyant, qui est le droit. Je suis avec Henri, maître Henri de la Motte Rouge. Henri, comment tu vas? Merci de m'accorder un petit peu de ton temps et merci de nous partager tout ce que tu vas nous partager dans ce podcast.
Bonjour Alec, bonjour à tous. Et oui, c'est effectivement un grand plaisir de pouvoir partager avec vous. Merci Alec pour cette invitation. J'attends de voir comment tout cela va se dérouler. J'attends tes questions, même si j'aime bien parler. Voilà, mais ça fait plaisir en tout cas d'être là présent aujourd'hui avec ton audience pour partager peut-être de manière assez différente dont on le fait habituellement.
Tout à fait. C'est vrai que le partage, c'est quelque chose qui te décrit particulièrement. Pourquoi ? Parce que pour la petite histoire, on se connaît depuis maintenant à peu près 4 ans. On collabore ensemble depuis environ 4 ans parce que je me souviens, en 2018, vous étiez avec ton associé Jean-Philippe venu dans nos bureaux à Genève pour justement faire une vidéo. On travaillait déjà ensemble, on échangeait déjà ensemble sur différents sujets. Et justement, 4 ans plus tard, on se retrouve dans le cadre du podcast. Donc, ça va être super intéressant. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux très rapidement te présenter, nous expliquer qui tu es et ce que tu fais ?
Oui, alors je m'appelle Henri de la Motte Rouge, donc je suis avocat au barreau de Paris depuis janvier 2011, donc plus de 11 ans de barreau maintenant. Moi j'ai une histoire un peu particulière parce que du coup j'ai travaillé dans un grand cabinet pendant une année et puis j'étais quand même assez entreprenant, donc c'était pas forcément très adapté pour moi, donc je suis parti de ce cabinet et là j'ai monté mon premier cabinet dans mon salon, on était encore en colocation et j'ai monté mon cabinet. J'ai d'ailleurs obtenu une autorisation de l'ordre des avocats pour monter le cabinet dans cet appartement-là. Donc vraiment, voilà, un peu comme certains entrepreneurs aujourd'hui que je vois qui se lancent dans leur chambre. C'est-à-dire, c'était peut-être ton cas aussi, Alec, quand tu t'es
tout
lancé
à fait
il y a quelques années. Et voilà, moi, j'ai lancé mon cabinet d'avocat et je l'ai lancé avec un ami qui, lui, était ingénieur télécom. Du coup, l'objectif, c'était d'apporter une expertise IT au niveau du coup juridique, avec une compréhension vraiment des problématiques de l'informatique, de l'internet, et d'apporter cette double expertise, cette double casquette avec une vision technique et juridique. Et là, on a fait un bout de chemin ensemble avec cet ami pendant 5 ans. Et lui, il est devenu ingénieur. Enfin, il était ingénieur télécom. Et ensuite, en parallèle, il a passé la licence de droit. Et ensuite, il est devenu conseil en propriété industrielle. Et là, il a dû faire des stages. Donc, il est parti dans un autre cabinet. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il est devenu avocat après ce parcours. Et dans ce cadre-là, en fait, à un moment donné, du coup, on s'est séparés. Et là, je me suis rapproché d'un autre confrère qui me confiait des dossiers en sous-traitance. Il s'agissait de Jean-Philippe Toitier, avec lequel je suis associé, avec lequel nous avons créé en 2018 le cabinet Toitier La Motte Rouge Avocat. Et cette association a coïncidé aussi au projet à l'époque Learny Lawyers, qui est devenu Info Lawyers, qui permettait d'apporter du droit et d'apporter de l'excellence juridique à un grand nombre de personnes via des programmes qu'on a lancés, des programmes de formation et des solutions en ligne qu'on a lancées. Mais on va revenir, j'imagine, là-dessus, Alec.
Effectivement, une des maximes ou la maxime de votre cabinet, c'est droit vers l'avenir. Tu fais référence justement au fait des technologies, du futur, de l'avenir. Je vois notamment que vos compétences, c'est aussi le e-commerce, l'infoprenariat, la e-réputation, les médias en ligne, les médias sociaux, le droit à l'image, le droit d'Internet, fiscalité du web, l'innovation, la cybercriminalité, la blockchain également. Donc, ça fait pas mal d'éléments sur lesquels on travaille de manière en commun, ce qui a fait justement des synergies relativement intéressantes, que ce soit pour moi, mes entreprises ou différentes personnes que j'ai dans mon entourage proche ou moins proche, mais aussi et avant de démarrer avec le ou les déclics qui t'ont fait aller dans le droit, puis ensuite ta volonté de lancer ton activité directement depuis ton salon, c'est drôle, on va pouvoir reparler de ces petites anecdotes. Qu'est-ce qui a fait ce choix de justement aller sur ces expertises-là et ces domaines-là en particulier, plutôt que des cabinets d'avocats traditionnels qui sont parfois uniquement spécialisés, par exemple, en droit des affaires ou en fiscalité spécifiquement?
Alors, en fait, ça, c'est au cours de mes études. Moi, j'ai fait un premier master 2 en droit de l'homme. Et du coup, parce que j'étais assez passionné de tout ce qui était droit humanitaire, j'avais fait d'ailleurs un stage à l'ONU en Suisse, à Genève. Mais en même temps, en faisant ce stage, je me suis aperçu que c'était un petit peu tout ce qui est organisation internationale, c'est un peu plan-plan, on peut pondre des rapports, c'est pas assez concret pour moi. Voilà, moi je suis quelqu'un de concret, pragmatique, entrepreneur, travailler dans une grosse institution, c'était finalement pas forcément fait pour moi. Ensuite, j'en ai discuté du coup avec des confrères qui avaient de l'expérience, et j'hésitais entre soit faire du droit pénal pur, carrière judiciaire, soit justement avoir justement une compétence propriété intellectuelle, nouvelle technologie. Et du coup, j'ai choisi ça en me disant que c'était quelque chose qui, de toute manière, était vraiment en mouvement et qui était forcément intéressant. Et parce qu'en plus, il y a sur ces questions-là, beaucoup de questions justement de droits de l'homme et liberté fondamentale qui se posent. Quand on parle finalement de RGPD, la vie privée qui est en cause. Quand on parle d'irréputation, finalement, on parle de la liberté d'expression. Et en fait, ces sujets-là, du coup, sont vraiment en concordance. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce master 2 en droit des nouvelles technologies et également parce que, en fait, je ne vais pas dire que je suis un geek, parce que c'est faux, je ne suis pas un geek, mais je suis très intéressé par les nouvelles technologies et notamment par les usages et les révolutions des usages que ça crée. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai toujours été dans ce milieu-là, parce que en fait, ça m'intéresse de voir les bouleversements sociétaux que créent les technologies. Finalement, toi, tu en fais partie, Alex, c'est ton métier, mais le métier des réseaux sociaux, moi, finalement, je suis arrivé sur le marché de l'avocat, c'était le début des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux modifient les usages, créent des nouveaux métiers, et c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est crypto-monnaie, NFT, blockchain, c'est des sujets sur lesquels on est, parce que ça modifie les usages, ça peut avoir des modifications sociétales. Et moi, c'est vraiment encore plus cet aspect-là que le fond technique des choses qui m'intéresse dans tout ce qui est nouvelles technologies, droit de l'Internet.
D'accord, très bien. Merci pour ces éléments. Et avant d'en venir au déclic qui t'a permis de te lancer, d'entreprendre, et j'imagine que le chemin a été, comme pour tout type d'entreprise et tout type d'initiative, pas forcément des plus simples et des plus rapides au départ. Tu fais référence au fait que tu as lancé ça directement dans ton salon, que tu avais besoin d'avoir une autorisation pour le faire, etc. Et ça a été progressif, on va le voir. J'ai hâte d'ailleurs de découvrir tout ça. Mais j'ai envie d'en venir à ce qui t'a poussé, même si tu l'as rapidement évoqué, à te lancer dans le droit. Parce que pour moi, le métier d'avocat, c'est vraiment une vocation. Si typiquement, je prends un autre exemple de métier, le métier de chauffeur de bus ou le métier de esthéticienne ou le métier de coiffeur ou le métier de cuisinier ou d'autres types de métiers, ce sont des métiers certes liés à une passion, ce sont des métiers liés aussi à des formations, mais le métier d'avocat, c'est vraiment pour moi aussi et surtout une vocation. C'est un choix de vie, quasiment. Peut-être que ouais, tu partages ou pas cette pensée.
Si, je partage. Et en fait, mais comme plein de métiers, finalement, je pense que quelqu'un qui est cuisinier et qui n'avait pas la vocation ne va pas être un excellent cuisinier. Il y a des avocats qui sont avocats parce que pour faire comme leurs parents ou parce qu'ils faisaient des études de droit, mais ils n'avaient pas la vocation, ça ne va pas être des excellents avocats. Donc, moi, effectivement, c'est quelque chose, c'est une vocation en fait, que j'ai toujours eue parce que j'ai toujours aimé représenter et défendre les autres. J'ai été délégué de classe, en fait, mais j'étais élu délégué de classe sans me présenter, en fait. C'est-à-dire que les gens votaient pour moi parce qu'ils voulaient que je les représente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, on dit que pour être un bon avocat, il faut soi-même avoir fait potentiellement quelques bêtises. Et effectivement, quand j'étais au collège, lycée, j'ai fait quelques bêtises. J'ai été renvoyé de mon lycée. Et ça, c'est une anecdote effectivement que je peux partager aujourd'hui. Mais j'ai subi en fait un renvoi d'un lycée où j'étais dans un lycée privé. Je n'expliquerai pas précisément les raisons. Mais lors de ce renvoi, en fait, je n'ai pas eu d'avocat. J'ai eu personne pour me défendre. J'étais dans un conseil de discipline. D'ailleurs, il y avait mes parents, donc mes parents ne me défendaient pas forcément. Il y avait le directeur, prof principal, mais il n'y avait personne pour me défendre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que aussi j'ai subi quand j'avais 15 ou 16 ans et que j'ai mal vécu parce qu'en fait, à un moment donné, l'avocat, c'est dans le cadre d'un procès, notamment dans le cadre d'un procès pénal, et nous, on fait aussi, on accompagne nos clients sur certains procès pénaux, c'est la seule personne qui va pouvoir vous tirer la main et qui va être à côté de vous pour affronter en fait un emballement contre vous. Et lorsqu'il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de démocratie, il y a des sanctions qui peuvent être arbitraires. Et du coup, c'est vrai que j'ai vécu ça aussi. Et ça, ça a aussi été un déterminant et un déclic pour faire du droit et pour devenir avocat.
D'accord, très clair. Et typiquement, tu penses que si tu avais été représenté, l'issue aurait été différente ou en tout cas tu aurais apprécié la chose différemment?
En fait, parfois, les avocats, notamment dans le cadre de procès pénaux, hein, si par exemple, si certains se sont intéressés au procès des terroristes du Bataclan, par exemple, en fait, leur présence ne va pas nécessairement faire baisser une peine. Mais par contre, ça va permettre de donner en fait une compréhension, ça va permettre de donner, de porter la voix, parce que c'est ça que veut dire avocat, c'est advocare, ça veut dire c'est porter la voix de la personne qui comparaît. C'est finalement la seule personne qui va finalement porter la voix de parfois des personnes qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas bien parler. Je ne suis pas certain que si j'avais été représenté, finalement, la sanction aurait été différente. En revanche, ce qui est clair, c'est que j'aurais eu l'impression que des choses étaient dites, que finalement, et pas de subir quelque part le poids d'un arbitraire sans aucune défense.
D'accord. Quelque chose de juste, finalement.
Exactement.
OK. Un point important également aujourd'hui, c'est que le cabinet que vous avez mis en place, on en entend beaucoup parler dans la sphère, l'écosystème entrepreneurial du web, infoprenarial, Web3 également, notamment francophone en particulier. On peut dire que vous avez créé quelque chose de puissant, de beau, de reconnu et de par aussi votre sérieux. Moi, en tout cas, j'ai l'habitude de vous recommander et je n'ai jamais eu de mauvais retour que de bons retours. C'est pour ça que je continue à le faire d'ailleurs. Aujourd'hui, tu te sens plus avocat ou tu te sens plus entrepreneur?
Vraiment, je me sens les deux, en fait. C'est marrant que tu évoques ça parce que on est dans une association qui s'appelle Avotech qui regroupe des avocats créateurs de Legal Tech, hein, de start-up juridiques. Et finalement, ce qui ressortait, c'était que justement, ce qui faisait notre force et ce qui faisait notre singularité, c'est que nous sommes aussi bien entrepreneurs que avocats, en fait. Et on n'a pas envie, et en fait, il y a un débat dans notre profession parce que certaines personnes qui montent des Legal Tech doivent quitter la robe parce qu'ils ne ils sont que sur une société commerciale et ils ne respectent plus leur déontologie. Donc, en fait, ils doivent arrêter d'être avocats. Mais ces personnes-là, ces confrères-là disent, mais non, mais nous, on est avocats, on veut rester avocats. Et c'est parce qu'avocat, c'est derrière, on a un certain nombre de valeurs également. Et moi, vraiment, je me sens avocat, entrepreneur. Voilà, c'est ça.
D'accord, merci pour ces éléments. Tu parles de valeurs. Pour ceux qui ne connaissent pas tous les détails de la profession, etc., et la déontologie qui gravite autour, justement, le respect de la déontologie qui gravite autour de la profession, quelles sont les valeurs primaires d'un avocat et du métier?
En fait, c'est un métier, finalement, que si on exerce sans valeur et sans respect de la déontologie, on peut très, très vite dériver parce qu'on est à des zones, en fait, où on peut avoir du pouvoir sur les personnes. On peut récupérer des fonds dans le cadre d'un litige. Si on est malhonnête, ça peut très, très mal fonctionner. Donc, en fait, nous, on a un serment et on doit porter les valeurs de dignité, probité, désintéressement, conscience. Nos honoraires, normalement, doivent aussi être fixés en fonction de la fortune de nos clients. Et du coup, tout cela nous donne en même temps une certaine un cadre, mais en même temps une certaine liberté aussi. Après, tous les avocats n'ont pas forcément et ne portent pas forcément ces valeurs-là. Hein. Voilà, faut aussi le dire. Mais nous, on est, comme on est un cabinet qui se veut aussi moderne, on est empreint de cette déontologie et de ces valeurs qui sont ancrées en nous. Et en même temps, on est aussi empreint de la volonté d'augmenter, de en permanence améliorer le service client, le service utilisateur. Et ça, du coup, c'est plutôt notre casquette entrepreneur du web qui veut ça. Mais du coup, on a pour objectif de rendre l'excellence juridique accessible. Et ça, comment ça se fait? Ça se fait en augmentant en permanence l'expérience utilisateur que finalement, les personnes, quand elles viennent nous voir, quand elles font appel à nos services, bah, elles soient pleinement satisfaites de ce qu'on apporte.
D'accord, très clair. Aujourd'hui, dans le cadre du podcast Le Déclic, j'identifie différents déclics de manière explicite ou pas, notamment un qui est très important, ayant accompagné bon nombre de personnes à démarrer une activité entrepreneuriale ou la développer. Souvent, certains, malgré le fait qu'ils aient des compétences, qu'ils aient de la motivation, de l'envie, de l'énergie, parfois même les finances nécessaires pour, n'osent pas ou prennent du temps à oser se lancer, entreprendre. Tu as évoqué justement le démarrage de ton activité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le stade de vie dans lequel tu étais, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé, quel a été le déclic qui t'a permis de te lancer? Est-ce que c'est un processus qui a duré pour toi plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'oser, et comment ça s'est passé concrètement?
Alors, moi, au fond de moi, je suis entrepreneur, en fait. C'est-à-dire qu'avant d'être, avocat, j'entreprenais déjà des projets qui pouvaient être des projets sportifs. Je fais de la voile en compétition, donc j'organisais ce type de projet. Également, ce qui est amusant, c'est que finalement, mes premiers clients, qui étaient une entreprise d'externalisation à Madagascar, avaient fait appel à moi quand j'étais encore étudiant, en fait. Et donc, du coup, j'avais déjà, entre guillemets, des clients, des gens qui voulaient déjà faire appel à moi. Donc, quelque part, j'avais ça au fond de moi. Et c'est pour ça qu'en fait, je n'aurais pas pu, je ne pouvais pas supporter le cadre d'un gros cabinet et que finalement, il fallait que je développe parce que je savais ce qui était bon pour ce qui était bon pour moi et ce que je voulais faire. Et donc, je savais qu'il fallait que je développe ma propre activité. Après, il y a la question de comment le faire. À cette époque où moi, j'ai développé mon activité, je devais avoir 27 ou 28 ans. En fait, je n'avais pas du tout les mêmes besoins et les mêmes charges qu'aujourd'hui où, par exemple, là, j'ai deux enfants. Voilà, je connais aujourd'hui des confrères qui hésitent à se lancer. Évidemment, ils ont, ou même des personnes qui sont salariées, qui ont des rémunérations qui sont importantes et donc qui, du jour au lendemain, doivent passer du coup dans la case entrepreneur avec cette peur du vide. Moi, évidemment, je partais de rien, donc c'était pas très compliqué, je dirais. En plus, j'ai pu bénéficier de l'ACRE, hein, donc qui sont des aides à la création d'entreprises. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis pas un solitaire. Donc, en fait, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait si j'avais été seul. Mais là, j'ai eu cet ami avec moi qui du coup, m'a beaucoup poussé aussi à faire les choses et on a fait les choses ensemble. Voilà. Là, je dirais tout le temps qu'on a travaillé ensemble, nous étions… lui-même n'était pas avocat, mais moi, j'étais un avocat sans expérience. Mais du coup, ça nous a énormément formés parce que du coup, il fallait quelque part apparaître comme si on avait plus d'expérience. Hein. J'ai déjà regardé un certain nombre de tes vidéos, Alec, et je sais que tu as eu l'occasion de parler du syndrome de l'imposteur. Mais évidemment, on l'a tous, je l'ai eu aussi. J'ai eu ce syndrome d'imposteur en tant qu'avocat, alors que j'étais bien avocat, mais pourtant, je n'étais pas suffisamment expérimenté à mon sens. Mais je dirais, c'est aussi en se disant, on est capable de le faire, on le fait, qu'on l'a fait, et finalement, qu'on prenait les précautions toujours plus nécessaires. Également, ce qui est très important, c'est d'être entouré d'un réseau. Moi, du coup, j'avais un réseau d'avocats que je pouvais appeler quand j'avais des questions sur des sujets que je ne connaissais pas. Donc, et c'est comme ça que je me suis… Que je me suis lancé. Donc, pour résumer, je pense que ce qui est important, c'est de… moi, je n'aurais pas pu me lancer seul, donc j'ai eu quelqu'un avec moi pour se lancer. Et du coup, ça a été un déclic. J'avais ça au fond de moi, donc je ne pouvais pas faire autrement. Un peu comme je ne pourrais pas faire d'autres métiers que d'être avocat, je ne pourrais pas non plus faire autrement que d'être entrepreneur. Donc c'est comme ça que je me suis lancé.
D'accord. Ok, très intéressant. Du coup, tu as évoqué bon nombre de sujets. Je vais revenir point par point sur ceci. Typiquement, tu fais référence au fait que tu as des confrères aujourd'hui qui désiraient se lancer, qui ont peut-être des responsabilités financières dans leur quotidien, aussi bien sûr une rémunération qui est en face de leur expertise ou de leurs années d'expérience, chose que tu n'avais pas à l'époque parce que tu t'es directement lancé dans l'entrepreneuriat, en tout cas plus naturellement avec ton ami. Tu penses que c'est plus simple de se lancer quand on est jeune, quand on démarre dans la vie active, plutôt que lorsque l'on a par exemple déjà cette expérience? C'est-à-dire qu'en gros, l'aversion du risque liée à ses responsabilités est plus avantageuse pour oser se lancer que l'expérience que l'on a acquise au fur et à mesure des années. Mais en revanche, la contrepartie, c'est que peut-être on a déjà un certain chemin de vie, une expérience dans tout ça, une famille à sa charge, des responsabilités liées à tout ça,
En même temps,
plutôt que.
voilà, en même temps, tout se fait parce que là, dans ce cas-là, on a aussi des fonds, on a pu mettre de l'argent de côté, donc partir dans un projet d'envergure plus importante aussi. En fait, pour moi, moi, ça a été mon chemin et il y a plein de chemins différents. Ça peut être très bien aussi de se lancer. Et nous, je sais qu'en fait, au démarrage, d'ailleurs, d'un point de vue business et honoraire, en fait, on facturait très peu nos clients, on avait très peur de facturer cher. Et du coup, on était, voilà, c'était pas une activité qui, je dirais, était très rentable. Mais par contre, on s'est vraiment. Ça nous a permis vraiment de nous former et de voir un nombre de dossiers importants. Je pense que la personne qui se lance au bout de 10 ans d'expérience, elle sait déjà mieux ce qu'elle vaut. Elle a aussi des fonds pour le faire. Voilà, donc c'est aussi tout à fait faisable. C'est pas la même chose, quoi. Voilà, mais tous les chemins sont bons. Et en revanche, si au fond de vous, et moi c'était mon cas, vous vous sentez entrepreneur, il faut le faire. Si vous sentez que vous pouvez finalement changer quelque chose dans votre profession, si vous avez quelque chose à apporter, faites-le. En revanche, il y a aussi d'autres profils qui ne sont pas entrepreneurs, qui doivent faire partie d'une équipe, mais qui peuvent être aussi des bons associés. Hein. De toute manière, moi, je crois dans la force, je crois dans la force des équipes. Aujourd'hui, on va peut-être en reparler, mais du coup, on a créé un cabinet du coup avec Jean-Philippe Toiti. Et là, ça a été un autre déclic, parce que je dirais que toute cette période. Jusqu'à de 2011 à 2017-2018, a été une période qui a été extrêmement riche en termes de formation, en termes de dossiers traités, etc. Mais ça n'a pas été la période, je dirais, qui a permis de développer massivement notre cabinet comme on l'a fait depuis 2018.
Très intéressant, du coup. Qu'est-ce qui a changé concrètement entre les deux approches? Ou du coup, pendant 2011-2018, il y a 7 ans qui du coup séparent ces 2 années. Ces 7 ans durant lesquels tu te construis, tu mets en place des choses, tu augmentes progressivement peut-être tes prix, tu augmentes progressivement du coup ton expérience, ton expertise, donc ta valeur perçue auprès de tes différents clients. Et ensuite 2018 à aujourd'hui, donc 4 ans, 2018 à 2022, il y a presque 2 fois moins de laps de temps finalement entre les deux. Là, les choses se développent. Aujourd'hui, vous êtes, je ne sais plus combien de collaborateurs avec Toiti
Oui,
Lamotrouge Avocat, mais je suis
on est
déjà
nous
venu dans vos
sommes
bureaux, c'est.
aujourd'hui on est 6 avocats, une stagiaire, voilà, on a une bonne équipe. En même temps, c'est pas une équipe qui est trop large, donc on est toujours présent. Mais pour en revenir à ta question, qu'est-ce qui a changé? Eh ben, en fait, on a décidé de s'associer avec Jean-Philippe Toiti. Et l'idée, c'était, lui-même était un avocat, justement, un peu solitaire, mais qui était entrepreneur dans l'âme. Et l'idée, ça a été justement de rassembler deux cabinets artisanaux, quoi, quelque part, et de construire une entreprise du droit, une entreprise du coup solide au niveau juridique. Et là, on a également eu deux projets entrepreneuriaux très importants pour nous, qui ont été du coup des déclics. Et c'est de ces projets, en fait, qu'on s'est d'abord associé dans ces projets. C'est ça qui a fait qu'on s'est associé ensuite dans le cabinet. Il y a d'abord DeepBlock, qui était une entreprise en matière de blockchain et qui a un produit phare qui s'appelle VitalSign, de signature électronique. On a levé des fonds l'année dernière et là, c'est une entreprise qui fonctionne bien, donc ça, dans laquelle nous ne sommes pas au quotidien de manière opérationnelle. Et puis, il y a eu InfoLawyers et ça nous a fait pénétrer, mais on va sans doute y revenir, dans le monde de l'infoprenariat, dans le monde de la vente en ligne de solutions. Et ça, ça a tout de suite fonctionné, en fait, quand on l'a lancé. Et je dirais qu'en fait, tout ce qu'on a fait avec Jean-Philippe Toiti, et Jean-Philippe Toiti m'avait confié des dossiers au démarrage en 2015-2016, c'est comme ça qu'on s'est connus, et ça a tout de suite été des résultats positifs sur le plan judiciaire. Et tout ce qu'on a toujours mis en place avec Jean-Philippe a fonctionné, en fait. Et donc, du coup, on a créé ce cabinet, on a recruté une première collaboratrice, et puis voilà, et là, ça a fonctionné. Et en fait, en termes de mindset, je dois dire également que je pense avoir beaucoup, beaucoup changé, beaucoup évolué en termes de mindset. En fait, moi, c'est un peu le moment des confidences, hein, c'est pour ça qu'il y a certainement fait ce podcast. Mais moi, jusqu'à 2018, je me suis toujours dit, je suis quelqu'un, je ne suis pas passionné par l'argent, l'argent ne m'intéresse pas, voilà, j'étais un peu avec mes plus hautes valeurs, et finalement, je n'attire pas l'argent. Grâce à l'infoprenariat, on a fait des rencontres, hein, de gens comme toi, Alec, ou d'autres. Et là, finalement, on s'est aperçu à quel point, en tout cas, moi, je me suis aperçu à quel point le mindset, en fait, pouvait être décisif dans la réussite entrepreneuriale. Et c'est vrai que dans l'infoprenariat, on rencontre beaucoup de gens qui sont attachés à ces questions de mindset, à ces questions d'état d'esprit. Et en fait, c'est vrai que le mindset est décisif pour pouvoir évoluer et réussir. Et en fait, briser ses croyances limitantes, et moi, ma première croyance limitante, c'était que je n'attirais pas l'argent, a été important et a été un facteur du fait du développement de notre cabinet et des réussites qu'on a eues au fur et à mesure.
Ok. Je répondais hier ou avant-hier à différentes questions dans le cadre d'une interview également, et on me disait, est-ce que tu penses que... c'est normal que l'argent soit l'élément ou l'un des éléments les plus importants pour un entrepreneur. Alors moi j'ai ma réponse et elle est stratégique et également elle est réfléchie pour différentes raisons et je la partagerai juste après. Elle est très claire, très 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 limpide. Mais j'aimerais bien avoir ta version de la réponse.
Alors, la question, c'est est-ce que tu penses que l'argent est un élément indispensable ou...
Ouais, un élément indispensable ou l'élément indispensable et plus important pour un entrepreneur, pour une entreprise.
En fait, c'est effectivement indispensable, mais je dirais que si tu n'es pas à l'aise dans ce que tu fais, tu le feras mal, en fait. Donc, la base de tout, pour moi, c'est de faire bien son travail et d'être à l'aise dans ce que tu fais. Et ensuite, l'argent, finalement... vient tout seul. Moi, je crois pas mal dans cette idée que finalement, l'argent n'a pas vraiment de saveur. Je ne suis pas un passionné de l'argent, mais en fin de compte, moi, mon objectif, c'est d'être suffisamment aisé pour que l'argent ne soit jamais une question, jamais un problème et que je puisse faire ce que je veux. Donc, en fait, il est très important d'avoir du coup une vision de la rentabilité, de finalement ne pas travailler à perte, etc. Alors, parfois, nous, ça nous arrive de faire des dossiers, ce qu'on appelle pro bono ou gratuitement parce qu'on a envie d'aider telle ou telle personne. Mais voilà, on le décide nous-mêmes. Mais c'est ça. Donc, sur cette question-là, il y a pas de, une entreprise ne peut pas fonctionner si elle ne facture pas, si et ça permet d'investir, ça permet de développer son entreprise, de recruter des personnes. De là, par exemple, nous avons acheté des nouveaux locaux. Voilà, tout ça, c'est des projets qu'on peut faire parce que ça fonctionne bien et clairement, du coup, c'est important. Mais je dirais que si, à la base de tout, si on ne faisait pas ce qu'on fait en aimant ce qu'on fait et du coup en proposant un service de qualité et en répondant à des besoins et en donnant des solutions à nos clients, on pourrait pas facturer nos services et ça ne fonctionnerait pas. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vient tout seul quand vous êtes aligné avec ce que vous faites et dans votre zone de confort.
Tout à fait. Je te rejoins sur cet élément et je rajouterai juste que pour moi, l'argent est à notre business ce qu'est l'oxygène pour notre corps. C'est-à-dire que si on n'a plus d'oxygène, on ne peut plus avancer et on décède. C'est pareil pour le business. Si on veut pouvoir avoir un impact massif, il faut avoir des fonds. C'est la base de tout, que ce soit pour du marketing, pour du déploiement, pour augmenter sa capacité d'absorption et de livraison en termes de clientèle ou aller plus en profondeur dans la satisfaction client. Et donc, il est important parfois d'avoir ce sentiment presque un peu d'égoïsme pour récolter, pour ensuite semer et pouvoir distribuer. D'ailleurs, dans un avion, quand on est en plein crash, je le souhaite à personne, mais la première des choses qu'on te dit de faire, c'est de mettre ton masque d'oxygène avant de mettre celui du voisin ou de t'assurer que celui du voisin est bien mis, quoi. Donc, c'est très important. Ok,
Je suis assez en phase avec ça et au-delà de l'argent, en fait, en général, c'est-à-dire que même si on parle un peu de développement personnel, faire attention à soi et donc là on rejoint les questions de mindset, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas pleinement épanoui, en tout cas vous ne faites pas en sorte de travailler sur votre épanouissement personnel, et ça passe par une hygiène de vie, ça passe par du sport, et ben du coup c'est ta réflexion sur l'égoïsme, vous ne pourrez pas aider les autres et parce que finalement vous n'êtes pas bien vous-même en fait, et ça c'est hyper important, ça c'est aussi des choses sur lesquelles moi j'ai travaillé depuis 2018, ce qui a été un peu la date du déclic pour pouvoir du coup apporter le meilleur. Il faut être bien soi-même, quoi, en fait.
100% d'accord. Tu parles d'aider les autres. J'ai ces dernières années pu aider beaucoup de gens à se développer personnellement au travers du développement de leur business en particulier, donc de leur chiffre d'affaires, de l'acquisition de davantage de clients, etc. Et en fait, j'ai constaté quelque chose, que ce soit quand je faisais de l'accompagnement individuel ou de l'accompagnement groupé, c'est là où j'apprenais le plus. Quand on me dit quels sont les livres que tu as lus, quels sont les mentors que tu as eus, quels sont les coachings que tu as suivis, alors j'en ai suivi, mais là où j'ai le plus appris, c'est vraiment en échange avec des clients, avec des business, que ce soit mes propres business au final en étant au capital, mais sans forcément dans la phase opérationnelle des choses, mais plus stratégique, ou en accompagnant des individus. Dans ton cas, est-ce qu'il y a eu une ou plusieurs affaires ou des anecdotes, des dossiers, sans forcément rentrer dans trop les détails, puisque tu es soumis au secret professionnel et que tu prends ça très, très au sérieux, et c'est tout à ton honneur, tu as tout à fait raison, c'est rassurant.
C'est une infraction pénale.
Exact. Quelles sont là où les leçons de vie, de business ou peu importe, que tu as pu avoir, là où les leçons les plus précieuses que tu as pu avoir au travers de une ou plusieurs affaires que tu as eues, s'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager, c'est pas, je pense que c'est peut-être la première et dernière fois que j'aurai la chance d'avoir un avocat sur le podcast ou par la suite on en aura d'autres, mais en tout cas là, il y a des détails croustillants qui peuvent apporter pas mal de valeur. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager en ce sens?
Au-delà des dossiers finalement un peu médiatiques, on a traité un dossier assez médiatique à un moment donné. Donc, en fait, ça, c'est des dossiers qui te prennent complètement, où finalement, tu vas travailler jour et nuit. Et là, je dirais que c'est vraiment… Euh, tu, tu travailles pour la passion du droit et de faire entendre raison sur tes arguments juridiques. Ensuite, il y a des choses, en fait, où quelque part, je me rappelle d'un dossier comme ça où finalement, j'avais dit 7 ans plus tôt à un client, il faut absolument mettre cette clause dans un contrat, parce que comme ça, si ça se termine, bah, vous pourrez réclamer une indemnité importante. Et du coup, finalement, 7 ans plus tard, est arrivé exactement ce que j'avais anticipé. Et du coup, grâce à cette clause, on a pu faire gagner pas mal d'argent à notre client. Donc ça, c'est toujours des éléments qui sont intéressants. Après, des anecdotes, oui, j'en ai un grand nombre. C'est vrai que je n'avais pas préparé la question, donc là, du coup, je ne vois pas nécessairement, mais voilà.
OK. Donc, en gros, il y aurait l'anticipation qui est la première des le premier le second des éléments et OK, je vois.
Anticiper, ça c'est très important, c'est-à-dire que nous on est là pour et souvent nos clients nous disent attendez, vous posez des questions quand même bizarres, etc. Oui, mais en fait on est là pour anticiper les risques à venir et on les connaît puisqu'on les voit aussi, parce que nous notre particularité c'est qu'on fait du conseil mais aussi du contentieux, donc on voit aussi les points qui dégénèrent et les points qui peuvent être soumis à risque, quoi. Donc, effectivement, anticiper les risques, ça fait partie vraiment de notre métier.
OK. Très clair. Un autre point, tu parlais de partage et de volonté de satisfaction client. Il y a un sujet qui est intéressant parce que, tu vois, typiquement, sur tous les dossiers ou les affaires sur lesquelles on a pu travailler ou les différents conseils que vous avez pu nous partager, on était essentiellement sur de l'individuel, c'est-à-dire j'ai ton contact, soit le tien, soit un de tes collaborateurs, je pose une question liée à ma problématique ou quelque chose, un sujet, et du coup, il y a un honoraire en face et ça se passe très bien. Parce que ma problématique est précise, j'ai une réponse qui est personnalisée et un contact individuel avec toi ou un de tes collaborateurs. Vous avez mis en place depuis 2018, sauf erreur, Lorny Lawyers, qui est maintenant Info Lawyers. Et là, vous avez pu, alors j'ai pas le chiffre, mais accompagner, aider au travers de ce programme en ligne des centaines, si ce n'est peut-être des milliers de personnes au travers de...
Plusieurs milliers de personnes, oui.
Plusieurs milliers de personnes, voilà, au travers de vos conférences en ligne et de vos produits en ligne. Qu'est-ce qui a fait que, parce que c'est quand même, je pense que vous êtes les seuls aujourd'hui en France, avocats, à avoir mis en place un produit ou des produits aussi poussés en termes d'accompagnement juridique, de droit, de conseil, en plus du coup d'être toujours en activité avec un cabinet Capignon sur rue, des équipes, des dossiers que vous traitez au quotidien. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette volonté de le faire et quels ont été les challenges auxquels vous avez fait face au travers de cette aventure ?
Ouais, ça c'est vrai que c'est pour nous une expérience qui est géniale et qui a correspondu en plus à une volonté entrepreneuriale particulière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous étions les clients de LearnyBox, hein, LearnyBox qui est une société qui offre une plateforme de formation en ligne, un peu comme ClickFunnels ou d'autres sociétés dans ce domaine-là. Et donc, enfin, j'ai dit nous étions clients, mais en fait, nous étions avocats, pardon. Et là, on avait un contact avec le président, Lorenzo Pancino, hein, qui est quelqu'un qui, à cette époque-là, en fait, pratiquait l'infoprenariat également. En même temps, il vendait sa solution et en même temps, il vendait aussi des produits de formation, justement, sur comment se lancer en ligne, etc. Et il a créé cette plateforme qui est sur laquelle nous, on vend nos produits également. Et à un moment donné, il nous a dit, mais attendez, ce serait génial que vous fassiez quelque chose sur le juridique où finalement, vous apportez des solutions à vos clients, etc. En plus, là, il y a le RGPD, tout le monde en parle, etc. Donc, nous, on est allé à une soirée, une learning party. D'ailleurs, c'est à une des learning parties à l'anniversaire de Lorenzo qu'on s'est rencontrés, Alex, si tu te souviens bien.
Donc, exactement.
On est allé à une soirée.
La grande mode, sauf erreur, c'était pour les 3 ans de Learning Box.
La grande mode. Et c'était toujours des. Voilà, c'est vrai que moi, je regrette un peu ce temps-là où. Où finalement, c'était un infoprenariat qui était… on pourra revenir là-dessus, mais le milieu de l'infoprenariat a beaucoup évolué depuis. À l'époque, c'était plus « fun », entre guillemets. Et du coup, on est allé au contact des différentes personnes et on leur a demandé « qu'est-ce que vous attendriez d'un avocat ?» etc. Et là, on a fait, du coup, avec Learning Box, un premier webinaire auprès de leur audience, où on a vendu, c'était finalement de faire des masterclass. En fait, on faisait 5 masterclass sur des sujets de l'entrepreneur du web, donc ça a plutôt bien fonctionné. Et ensuite, avec les masterclass qu'on a faites, du coup, on s'est créé finalement une sorte de formation et surtout des modèles de documents. Et là, on a fait un webinaire qui s'appelait les documents indispensables de l'infopreneur. Et là, ça a été un carton tout de suite. On a fait plus de 100 ventes. Et donc là, on s'est dit, c'est une activité qui peut être très intéressante parce que contrairement à habituellement, finalement, un avocat vend son temps, hein, et tu le dis souvent, Alec, le temps est quelque chose, est ce qu'on a de plus précieux. Mais, et du coup, là, grâce à ça, finalement, on ne vendait plus notre temps, on vendait autre chose, et surtout, ça permettait d'accompagner un prix vraiment beaucoup plus intéressant que celui de venir voir un cabinet d'avocats, d'accompagner finalement un grand nombre d'entrepreneurs qui se lançaient ou qui étaient déjà plus avancés, en mutualisant notre savoir-faire. Et partant de là et voyant le succès que ça avait, on a construit finalement autour de ça plusieurs produits en ligne et ça a très, très bien fonctionné. Donc on a un produit, c'est le pack documents juridiques obligatoires pour vendre en ligne. On a également à côté de ça un club qui permet d'accompagner, d'avoir une hotline auprès de notre cabinet, etc. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, toute cette activité-là, donc on a créé ensuite une entreprise, une SAS, donc une entreprise commerciale, hein, on a eu le droit, puisqu'il y a la réglementation au départ interdisait d'avoir des entreprises commerciales, mais nous, on est dans ce qu'on appelle le décret Matcon, donc activité annexe et accessoire au métier d'avocat. Donc on a créé cette entreprise commerciale, qui est la société Lola. Et du coup, on a développé InfoLawyers. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, il y avait une dynamique extrêmement vertueuse entre ce qu'on proposait en ligne et ensuite le développement de notre cabinet. Donc, c'est grâce à InfoLawyers aussi qu'on a pu développer notre cabinet. Grâce à InfoLawyers, finalement, on est entré en contact aussi avec énormément d'entrepreneurs du web à succès, hein, comme toi, Alec. On accompagne d'autres, notamment des personnes dont tu nous as envoyé le contact. Hein. Je pense par exemple à Yomi Denzel, qui est leader dans son domaine du e-commerce. La grande force qu'on a aujourd'hui, c'est que on intervient pour de nombreux entrepreneurs du web à succès et on a vraiment une vision du métier avec toujours un peu en avant-première parce que comme on intervient pour tous ces entrepreneurs, finalement, ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent faire et nous, on le met en place au niveau juridique. Donc, en fait, on a accès à un grand nombre de stratégies et de choses qui se mettent en place. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Ça nous aide aussi pour développer nos propres stratégies à nous dans le cadre d'InfoLogers. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le cercle vertueux entre cette activité InfoLogers et le développement de notre cabinet.
Exactement. Tout à fait. Et moi, tu vois, d'un œil stratégique, lorsque tu m'évoques ça, et pour apporter aussi de la clarté et de la valeur complémentaire à celles et ceux qui nous écoutent, ce que vous avez mis en place finalement, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle un tripwire ou un lead magnet d'une certaine façon, profitable qui plus est, pour acquérir visibilité, prospects potentiels et clientèle sur le cabinet, mais grâce à une activité annexe, effectivement, qui reste dans cette trajectoire, dans cette lignée, qui est le juridique, qui est le droit, qui est l'accompagnement. Et c'est extrêmement pertinent, c'est extrêmement intelligent, et ça permet aussi d'accompagner le plus grand nombre, parce que finalement, la typologie d'individus qui achète vos produits et qui a besoin de vos produits, l'ayant vu, ayant fait des collaborations avec vous pour envoyer certains de mes clients vers ces solutions que vous proposiez au plus grand nombre, bah ce sont des personnes,
personnes qui se lancent.
Voilà, néo-entrepreneurs qui démarrent leur activité, qui ont besoin justement d'être rassurés, d'être cadrés, mais qui ne peuvent pas forcément se permettre d'investir des milliers d'euros d'honoraires dans un cabinet d'avocats ou pour des documents, parce que c'est vrai que créer un contrat, un pacte d'associés ou des conditions générales de vente, des mentions légales auprès d'un cabinet directement, ça coûte tout de suite plusieurs milliers d'euros. Mais c'est nécessaire quand même de faire les choses correctement, parce que la pire des choses à faire, ce serait de les copier-coller bêtement sur le site d'un concurrent ou de les télécharger sur Internet, même si beaucoup de gens le font malheureusement. Mais vous répondiez à ce besoin qui n'était pas comblé finalement. Et de l'autre côté, ceux qui vous envoient à leur communauté et qui ont eux les moyens et d'autres enjeux, des enjeux financiers parfois importants, effectivement, de par votre visibilité et votre autorité, avaient envie de travailler avec vous. Donc super, super intéressant.
Ouais, c'est comme ça aussi. Et puis les néos, c'est des gens justement, en fait, nous on veut leur donner et du coup leur partager du coup à un prix qui est vraiment très intéressant pour que ensuite ils peuvent se développer et devenir aussi des clients du cabinet, quoi, en fait.
100%.
Donc on crée un lien avec eux déjà comme ça. Et l'idée, c'est d'accompagner finalement, quelque part, si on peut raisonner en pyramide, voilà, c'est le bas de la pyramide comme le haut, en fait, sauf qu'on les accompagne différemment. Mais dans tous les cas, ils ont deux choses, c'est qu'ils ont de l'excellence juridique, ils ont de l'accessibilité et ils ont un visage humain derrière. Et ça, c'est très important parce qu'il y a d'autres sociétés qui, en ligne, proposent des choses et tout, mais on sait jamais qui est derrière. Et finalement, ce caractère d'humain derrière, et nous, on est les deux, mon associé Jean-Philippe et moi-même, on est les visages de tout cela. Et donc, ils savent ce qu'il y a derrière, ils connaissent la compétence, ils connaissent aussi justement les valeurs qu'on a. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi, cette humanité et le fait qu'on soit des vrais avocats derrière, c'est forcément aussi rassurant et intéressant pour tout le monde, quoi. Là-dessus aussi, vu qu'on est dans un podcast aussi d'entrepreneurs, moi, il y avait une phrase qui m'avait marqué. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un petit peu provocant, mais je trouve que c'est très, très intéressant. Je crois que c'était le patron de la FNAC qui avait dit ça. Il disait, il faut vendre aux riches parce qu'ils sont riches et il faut vendre aux pauvres parce qu'ils sont nombreux, en fait. Et quelque part, l'idée, c'est que, je dirais, les gens qui se lancent finalement sont le bas de la pyramide et sont très nombreux et c'est très intéressant d'avoir du coup des produits pour eux et également il faut savoir accompagner le haut de la pyramide qui ça sont des clients stratégiques et très intéressants qui en plus peuvent payer à la juste valeur votre temps. Et donc, c'est un peu ce qu'on a mis en place et ça fonctionne bien. Évidemment, quand je dis les pauvres, c'est le patron de la FNAC qui l'avait dit. Je ne le dirai pas comme ça. Et j'ai beaucoup de respect, au contraire, pour les gens qui se lancent. Mais effectivement, il y a des petits budgets quand on se lance. Et c'est pour ça que nos solutions sont faites aussi pour eux, pour ces petits budgets de gens qui se lancent.
Tout à fait. Aujourd'hui, que je me rende compte de l'impact que ça a eu, cette pénétration de marché de l'infoprenariat francophone que vous avez fait, et vous avez fait ça avec brio, félicitations pour ça. En termes de proportion au niveau du cabinet, si tu devais donner un chiffre en pourcentage entre les clients qui sont issus de la sphère infoprenariale et les clients traditionnels, du monde traditionnel, même si bien sûr je sais que vous êtes dans un écosystème tech, blockchain, e-commerce dans tous les cas, quel serait ce pourcentage ?
Alors déjà, en fait, en termes juste de vente, finalement, avec notre société Lola et le cabinet d'avocats, en fait, on est à je dirais, un quart, trois quarts, en fait. Ça, c'est, on est à un quart de vente de produits d'infoprenariat et à trois quarts de vente de produits, enfin de solutions cabinet, d'accompagnement cabinet. Ensuite, évidemment, à notre cabinet aujourd'hui, sur ces trois quarts, je pense qu'il y a effectivement à peu près un quart qui est issu directement du monde des entrepreneurs du web, c'est clairement.
D'accord, ok. Très intéressant. Avant justement de se quitter, après cet échange très intéressant, tous ces éléments, toutes ces valeurs, tous ces déclics qu'on a pu partager, si tu avais, imaginons, c'est ton podcast, tu peux partager ce que tu veux à l'audience ou la personne qui nous écoute maintenant, que ce soit même toi il y a 11 ans ou en 2018 ou en 2017, 2016 quand tu travailles d'arrache-pied sans forcément avoir la conscience de ta valeur ou mis en place différentes choses que vous avez mis en place aujourd'hui. Bref, le conseil qui pourrait être considéré comme un déclic lui aussi potentiellement, que ce soit pro, que ce soit perso, que ce soit mindset, peu importe, mais si tu as quelque chose à partager maintenant, fais-toi plaisir.
Je dirais, lancez-vous si vous sentez que vous êtes entrepreneur. Moi, je crois aussi dans la force des équipes, mais ça, c'est assez personnel. Et travaillez sur vous, en fait, pour pouvoir, en fait, donner le meilleur de vous-même. On aura du mal à entreprendre et à entreprendre positivement si on n'a pas fait un vrai travail sur son mindset. Et ça, tous les chefs d'entreprise à succès vous le diront, quoi. C'est clairement, en fait, les croyances limitantes qu'on a qui doivent être dépassées à tous les sujets. Et chacun a ses croyances limitantes. Donc, il faut faire un travail sur soi-même, à mon sens.
Ça me fait rebondir sur un élément rapidement. Comment tu travailles ton mindset? Tu parles beaucoup de ça, tu accordes de l'importance à ça et c'est super intéressant parce que souvent on pense que c'est pas forcément rationnel, c'est pas très pragmatique alors que tu es dans un métier extrêmement rationnel, extrêmement carré, cartésien, terre à terre, pragmatique et pourtant tu lui accordes une forte importance à juste titre selon moi. Comment est-ce que tu travailles sur ton mindset et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ce sujet à ceux qui nous écoutent?
Moi, je pense que, je pense qu'en tant que homme, en plus, c'est particulièrement important, mais le sport est, à mon sens, vraiment, vraiment fondamental. Donc, je fais quand même pas mal de sport. Ensuite, dans le cadre d'événements, d'échanges aussi avec des personnes, j'échange aussi beaucoup avec mon associé qui, lui, est, je dirais, comme il est quand même plus âgé, il a plus de 50 ans, il a une forme de sagesse, il a pas mal aussi bourlingué sur le développement personnel. Je suis aussi intéressé par les questions de développement personnel, voilà, c'est un peu en lisant, c'est par différentes formes. Également, cultiver en fait, cultiver son feu intérieur. Donc, ça peut être cultiver sa spiritualité, cultiver son esprit du jeu. Il y a aussi un point, c'est que, on n'a pas parlé, mais moi, je considère que l'entrepreneuriat, c'est un jeu aussi. Et si on joue, et si on aime jouer, c'est un super terrain de jeu. Il faut le voir comme ça. En voyant les choses comme ça, parfois ça permet aussi de relativiser un peu plus les choses et de prendre un peu du recul. Mais je suis sûr que toi aussi, Alec, tu vois l'entrepreneuriat comme un jeu.
Exactement, tout à fait. Tout à fait. C'est un jeu très intéressant où tu peux en plus inventer tes propres règles, finalement. Donc,
moi, j'adore, en fait, et c'est aussi quelque chose que je retrouve dans mon métier, que je retrouvais dans un de mes sports passions, qui est la, la voile en compétition et la régate. J'aime jouer aux échecs aussi. Donc, dans le métier d'avocate et aussi sur des stratégies en fait, de jeu d'échecs hein, vis-à-vis des adversaires qui peuvent être d'autres confrères, mais dans les dossiers, c'est un jeu d'échecs. Donc, il faut anticiper, il faut prévoir les coups des autres, etc. Et dans le business aussi, tu retrouves cette possibilité d'échecs. Moi, j'aime bien il y a aussi un peu un côté monopoly. On positionne un peu des points de vente à droite, à gauche, des petits investissements, tac, 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 hop, ça tombe. Parfois, ça tombe pas. C'est un jeu. Et quand on joue, en fait, on relativise les choses. Et on s'amuse en fait. Et il y a aussi cette phrase, ça pourrait être d'ailleurs, parce que comme je n'ai pas préparé ce podcast, en fait, je suis un peu en roue libre et en improvisation, mais il y a cette phrase là qui dit que finalement, choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler le reste de votre vie. Voilà, moi, et je suis sûr que c'est partagé avec toi, Alec. En fait, on est tous les jours plus ou moins au travail, mais en fin de compte, c'est un amusement. Il y a forcément de la labeur à certains moments, mais en fait, si on fait ce qu'on aime, c'est quand même beaucoup moins laborieux.
Totalement, totalement. Merci Henri pour tous ces éléments. Avant de se quitter, encore deux éléments, deux questions. Première, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'avoir plus de Maître Henri de la Motte Rouge, Jean-Philippe, et même, pourquoi pas, travailler avec vous directement.
Alors, vous pouvez faire appel du coup à notre cabinet hein, si vous avez des besoins. Alors, souvent, et c'est un peu malheureux parce que c'est parfois un peu un mindset français, c'est de se dire on va faire appel à l'avocat quand ça va mal, mais souvent, quand on développe un projet dès le début, c'est bien de faire appel à un avocat. Donc, vous pouvez contacter notre cabinet d'avocats Toiti La Motte Rouge Avocat, donc tlmr-avocat.com. Et également, vous pouvez retrouver nos solutions juridiques en ligne, nos packs de solutions et vous inscrire à notre newsletter où vous serez informé du coup si on fait des conférences sur certains sujets, vous serez informé de toutes nos news, infolawyers.fr. Infolawyers, pourquoi ? Parce que c'est les infopreneurs du droit, donc c'est la contraction entre infopreneurs et lawyers. Lawyers, c'est avocat en anglais, donc infolawyers.fr.
D'accord, très bien. Merci pour ça et vous aurez le lien dans tous les cas en description. Dernier sujet, dernier élément. Tu as beaucoup contribué dans le cadre de ce podcast et je t'en remercie. Pas mal de déclics ont été justement mis en valeur, mis en avant. Tu vas pouvoir contribuer encore de manière indirecte. Si tu avais une personne en particulier à recommander dans le cadre de ce podcast avec qui tu pourras me mettre en relation pour qu'on puisse partager avec les personnes qui nous écoutent, qui est-ce que ça serait ? Est-ce que tu peux nous en faire une petite présentation rapide et pourquoi, selon toi, ce serait super précieux de l'avoir ici ?
Alors, ouais, quand tu me dis ça, moi, je pense immédiatement à notre ami et on ne serait pas là s'il n'était pas là pour plusieurs raisons, parce qu'on ne se serait pas rencontré Alec et parce qu'on n'aurait jamais fait de l'infoprenariat, on n'aurait pas vendu nos solutions en ligne. Et il s'agit du coup de Lorenzo Pancino, qui a été le fondateur de LearnyBox hein, et qui est en plus un ancien animateur radio. Donc, je suis sûr qu'il saura faire bien rigoler ton audience parce qu'en plus, il est voix off, etc. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est un serial entrepreneur. Il a vécu plein de succès, des échecs. Il a plein de choses à raconter. Et c'est quelqu'un qui fait du business vraiment avec son cœur. Donc, c'est un artiste avant tout. Mais il a quand même… Et du coup, c'est lui qui est un des précurseurs dans l'infoprenariat. Il a créé une des plateformes leaders en France qu'il a aujourd'hui revendu, LearnyBox. Et donc, du coup, voilà, je pense que ça fera quelqu'un qui sera extrêmement intéressant. Et forcément, c'est important pour nous de le citer parce que ça a été notre déclic. Sans Lorenzo Pancino, encore une fois, Nous ne serions pas là pour parler de tout ça et on n'aurait jamais créé InfoLawyers, nous n'aurions pas été des avocats infopreneurs. Donc, encore une fois, je le remercie et ce sera un plaisir, à mon sens, que tu puisses l'interroger dans le cadre de ton podcast et je suis sûr qu'il en sera ravi.
Eh bien, écoute, merci pour ça, merci pour tout, merci pour la mise en relation également. Si vous avez apprécié ce podcast et que la valeur qui vous a été distillée par Henri ici vous a permis d'y voir plus clair ou tout du moins de prendre conscience et d'avoir quelques déclics pour votre vie, pour votre business, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas surtout à partager sur toutes les plateformes ce podcast. Merci encore Henri et à très bientôt.
Merci, à très bientôt Alec.